France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Ès.
Un jour dans le monde, c'est un jour à Elizabethtown, Pennsylvanie.
On ne peut exclure l'hypothèse qu'un enfant tombe sur un livre et lise un passage que ses parents désapprouvent peut-être.
Les parents recevront un formulaire sur lequel ils indiqueront « Je refuse que mon enfant ait accès aux livres pour adultes ou aux livres pour jeunes adultes, mais ils pourront accéder aux autres catégories. »
Nous sommes à une réunion d'un school board, d'une commission scolaire dans une petite ville de Pennsylvanie, autour de 10 000 habitants seulement. On est en train d'organiser l'interdiction de certains livres. Bonsoir Aubry Adler.
Bonsoir Fabienne.
C'est un extrait de votre film qu'on vient d'entendre, Une guerre civile, Elizabethtown, Pennsylvanie, un film déjà primé au prestigieux festival de documentaire IDFA aux Pays-Bas, meilleure réalisation, diffusée demain soir sur Arte. Il est aussi déjà en ligne. Vous avez suivi pendant 6 mois l'élection donc de la commission scolaire, et il faut expliquer Aubry Adler d'abord ce que c'est qu'une commission scolaire aux États-Unis, jusqu'à quel point c'est politique et aussi puissant.
Alors, le système, c'est vrai, est assez particulier. Ça n'existe qu'aux États-Unis. Les écoles publiques sont dirigées par une commission, en général 9 membres, en tout cas en Pennsylvanie, qui sont tous élus au suffrage universel. Mmh. Ce peut être n'importe qui de la communauté. On ne vous demande pas d'avoir un doctorat ou d'avoir des diplômes particuliers. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'en 2020, ce n'était pas forcément des élections qui fascinaient la population. Mais après l'échec de l'assaut contre le Capitole le 6 janvier, Steve Bannon, le conseiller de Trump, a assez finement analysé l'échec et a décidé qu'au lieu d'avoir ces tentatives très frontales de prise de pouvoir, il valait mieux peut-être commencer, comme il le dit, de bas en haut. Mm-hmm. C'est-à-dire infiltrer toutes les instances de la vie sociale, donc une commission scolaire, le comité local du Parti républicain, un poste de juge ici et là dans un État, et de monter vers le pouvoir suprême.
Quand on dit que ces commissions qui sont élues effectivement au suffrage universel sont puissantes, ça veut dire, et c'est un peu ce qu'on a entendu dans l'extrait, on peut dire livres figurent dans les rayons des bibliothèques. Ça veut dire qu'on a un droit de regard sur l'enseignement, sur son contenu, sur la censure éventuelle de certains livres, etc. C'est un pouvoir qui est énorme. Quand vous prenez le reportage...
Je peux même ajouter le budget,
et
parce que c'est le vrai nerf de la guerre. Ce sont eux qui décident du taux d'imposition. Et donc, vous pouvez tout à fait décider d'appauvrir l'éducation publique, comme vous le souhaitez.
Et alors, pour suivre effectivement ce que vous disiez, les théories de Steve Bannon, commencer en bas, monter en haut, ils sont 9 dans la commission scolaire que vous suivez. Déjà 4 sièges occupés par l'ultra-droite. Il en reste 5, et c'est ça qu'on va suivre. Comment ils se définissent d'ailleurs, ces ultra-droites? Ce sont des fondamentalistes chrétiens, des nationalistes chrétiens. Comment eux-mêmes arrivent à se définir?
Alors, ils ne l'étaient pas tous. Il y en avait en tout cas 3 qui appartenaient à la même église. Fondamentalistes chrétiens, en général, ils appartiennent à des églises qui ont une vision extrêmement rigoriste, une lecture des textes bibliques qui ne laisse aucune place à l'exégèse. Et on les appelle aussi nationalistes chrétiens parce que, en même temps, ils se situent en général à l'ultra-droite du Parti républicain. Donc, vous prenez ces deux ingrédients et vous avez de fervents supporters de la théocratie.
Ce qui est intéressant quand on les regarde, c'est que on oublie peut-être une partie au fond de ce qu'on a couvert à moitié pendant l'élection qui vient de se passer. Ces gens sont très très armés, ça nous étonne qu'à moitié. Ils sont donc effectivement, comme vous le décrivez, très très religieux, vraiment très religieux. Est-ce qu'on n'a pas assez regardé de près la place du religieux dans cette élection-là? Parce que là, c'est clair, c'est Dieu avant le gouvernement.
Je crois qu'on a oublié, en partie en tout cas, que les États-Unis sont un pays extrêmement religieux. D'ailleurs, vous voyez dans le film que même les gens, je vais dire de gauche, on va dire démocrates...
Ils ont tous leur église. Hein.
Ils ont tous... Oui, il y a plus qu'une église au milieu du village, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Dieu fait partie des États-Unis. Quand vous remontez aux premiers migrants, je crois que c'est 144 qui sont arrivés de Grande-Bretagne en 1607, ils ont fait ce pacte de mariage avec Dieu, promettant de donner la terre d'Amérique, si ils parvenaient à l'accoster, à Dieu et à évangéliser les populations autochtones. Et on oublie aussi parfois que chaque fois que vous avez un dollar dans la main, dessus il y a quand même marqué « In God we trust ». Et quand un président, quel que soit son bord, prête serment, et vous le verrez dans quelques jours à Washington, il pose sa main gauche sur la Bible.
Alors évidemment, et c'est cela effectivement qu'on voit, il faut mesurer quand même tout ce que ça veut dire. Je laisse nos auditeurs découvrir les endroits où vous nous emmenez dans ce film. Il y a cette fameuse réunion à Virginia Beach qui est proprement hallucinante dans les propos qu'on y entend. Vous entrez dans une espèce de think tank fondamentaliste qui s'appelle la John Birch Society, qui est de cet acabit-là. Cette Amérique-là n'est pas anecdotique. Est-ce qu'elle a le sentiment que son avènement est là, est arrivé? Est-ce que c'est aussi ce que vous avez senti? Vous avez tourné une petite année, en fait, avant l'élection générale.
Je ne sais pas s'ils pensent que l'avènement est là. De toute façon, ils savent qu'ils ont gagné et qu'ils sont au pouvoir, peut-être pour longtemps. Les gens que vous voyez à Virginia Beach, en effet, ce sont des gens qui ont inventé le Tea Party ou des podcasteurs multimillionnaires qui ont un énorme impact sur leurs auditeurs. Ce sont des gens qui sont convaincus qu'il y a une guerre qui se prépare aux États-Unis, une guerre intérieure, et qu'elle sera gagnée grâce à la religion. Et ils sont fervents. Je ne peux pas les accuser de se servir de Dieu pour accéder au pouvoir.
Ils sont sincères, vous dites, ouais.
Oui, ce sont des on va dire sincères, sur certaines choses en tout cas.
Je voudrais qu'on écoute un monsieur, il s'appelle Tom Jones, et c'est un élu de Pennsylvanie.
Vous seriez disposé à proposer une législation qui interdirait la vente d'armes d'assaut de type militaire ou civil? Pourquoi pas? Avez-vous une raison valable d'avoir ce genre d'arme? Pourquoi voudrait-on acheter ça?
Hamas?
Cet homme s'appelle Dom Tonjum, c'est une réunion, puisqu'il est député, il voit ses concitoyens. Moi j'ai eu la chance de voir votre film en projection dans une salle, et quand il dit ce personnage, ah bah évidemment, il y a le Hamas, tout le monde rigole. Mais lui il est sérieux et ne comprendrait pas même pourquoi on rigole et jusqu'à quel point c'est sérieux. Il n'est pas tout seul. Hein. Avant d'aller à Virginia Beach, Isegren, qui est à 3 heures de route, 5 heures de route, Isegren, quels pourraient être les dangers, on voit passer Daesh, on voit passer le Hamas, on voit passer tout ça quand même. Tout ça est extrêmement sérieux. Et Black Lives Matter.
On va pas revenir sur le deuxième amendement et sur cet attachement féroce que certains Américains ont à leurs armes, et on peut parler d'arsenal maintenant, puisqu'on parle en effet d'armes de guerre. Honnêtement, je pense que ça, c'est une bataille qui est pour l'instant perdue. Il y a aussi cette notion, quand vous mentionnez Tom Jones, qui parle d'un État tyrannique, ce qui fait rire certains dans la pièce. Qu'est-ce que serait un État tyrannique aux États-Unis? Il y a donc toujours, chez ces chrétiens fondamentalistes et dans cette ultra-droite du Parti républicain, cette impression qu'un complot invisible est fomenté par Black Lives Matter, des ultra-gauches, etc., et qu'il faudra être armé et se battre contre ses voisins, contre ses propres concitoyens, pour que l'Amérique reste ce qu'elle doit être.
Ce qui est frappant dans cette ville, qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, mais il le formule chez vous en fait, c'est de dire combien le Covid a changé les perspectives, a même renversé les perspectives. Le point de bascule en Pennsylvanie, il faut rappeler que le gouverneur est démocrate, c'est l'obligation du port du masque par exemple.
Oui, alors j'étais très surprise.
L'un de vos personnages dit même « j'étais démocrate jusque-là, jusqu'au port du masque ».
Oui, tout à coup, ce petit bout de tissu qui a été imposé, notamment aux élèves de l'école, a été ressenti comme la perte d'un dernier petit maillon de liberté individuelle. Mmh. Et je pense que ce qui s'est expliqué ensuite dans ces églises extrêmement traditionnalistes, et que la plupart des églises de la région ont fermé leurs portes et ont fait leur service par visio, à la demande du gouverneur démocrate en effet, mais que certaines réfractaires sont restées ouvertes, et que donc elles ont rallié une partie des ouailles qui se retrouvaient devant un ordinateur et qui n'y trouvaient sans doute pas leur compte. Et ces ouailles qui sont allées vers ces églises qu'on pourrait qualifier de beaucoup plus, on va dire, traditionnalistes, même s'ils ne parlent pas le latin, sont restées.
Après, Aubrey Adler, ce que j'ai trouvé frappant dans votre film également, c'est que les profs qu'on voit, qui sont donc en première ligne parce que c'est leur enseignement qui peut être mis en cause par la commission scolaire, moi je les ai trouvés carrément courageux en fait. Il y en a un auquel je pense, notamment, qui ne lâche rien, qui fait réfléchir ses élèves au premier amendement, au deuxième amendement, à la littérature. Il y en a un qui se moque des fondamentalistes puisqu'ils veulent interdire un tramway nommé Désir simplement parce qu'il y a Marlon Brando torse nu sur la une. Ils sont courageux ces profs-là.
Ils sont courageux, d'autant qu'ils pourraient être virés, en fait. Il faut tout de même savoir que dans le syndicat des professeurs de l'école d'E-Town, l'école d'E-Town, c'est quand même 3200 élèves, mm-hmm. c'est énorme. 30% environ des professeurs ont basculé vers la droite.
Mm-hmm. Ce qui est beaucoup, quand même.
C'est beaucoup.
Il faut rappeler, 10 000 habitants, cette ville ressemble à des milliers de villes américaines. Ce qu'il faut peut-être rappeler pour les gens qui nous écoutent, c'est que en 2 heures de voiture, on est à New York, en 2 heures de voiture, on est à Washington. Donc on n'est pas au milieu de rien
non,
du tout dans cet endroit-là.
On se retrouve dans les années 50.
Exactement. Je voudrais qu'on écoute un dernier extrait parce qu'il est très parlant. C'est une tentative de dialogue. C'est un vrai dialogue, mais un dialogue de sourds. Écoutez.
On doit donc mettre en place quelque chose qui protège ma liberté, ma croyance, autant que la vôtre.
Vous êtes contre le premier amendement.
Je suis pour le premier amendement. C'est vous qui semblez contre.
En défendant des livres. Mais vous connaissez le premier amendement ?
En fait, vous voulez nier ma liberté.
Ce qui est génial, c'est qu'ils parlent tous de la même chose. Ils parlent du premier amendement, ils parlent de la démocratie. Ils en ont juste une vision complètement éclatées et complètement différentes les uns les autres. Là, dans cet extrait, on est après une réunion où ces deux parties-là se sont vues, ont été cordiaux les uns avec les autres, et puis ensuite, au moment de la discussion, vous êtes pour le premier amendement, non c'est vous, non c'est vous, non c'est vous. C'est à ça que ça ressemble aujourd'hui, le dialogue à Elizabeth Town.
Mais c'est toujours la difficile question de la compréhension de ce qu'on lit, c'est-à-dire qu'ils défendent en effet la Constitution américaine, mais ils ne la comprennent pas de la même manière. Et il y a une chose que vous ne voyez pas hors champ, et je ne le dirai qu'une fois, parce qu'évidemment, je ne peut pas tout confier sur ce film qui a été très difficile à réaliser pour des conditions de sécurité. À l'issue de ce dialogue de sourds, où en effet on se serre la main tout en se haïssant ouais. probablement profondément, l'un des deux intervenants s'est collé à moi, donc je ne pouvais pas le filmer, a soulevé sa chemise, m'a montré son énorme revolver et m'a dit « Bon, de toute façon, à la fin, c'est moi qui aurais raison.
» Ce qui est frappant, vous filmez ce qu'on appelle en cinéma du réel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de commentaire, la caméra
Cinéma direct, c'est une forme de cinéma qui a été inventée au Québec et en Amérique du Nord à la fin des années 50, repris en France par des gens rouges, par exemple, où l'idée est d'intervenir le moins possible entre ce que l'on filme et vous qui allez regarder.
Exactement, et la caméra regarde, elle regarde sans juger, personne ne censure ses propos. Je me demandais à quel moment on vous a oublié, je me demande même jusqu'à quel point ce qu'ils pensent qu'ils peuvent attendre de vous, ces gens que vous filmez, et notamment ceux de l'ultra-droite.
Alors, je ne vous cacherai pas qu'ils ont un petit peu essayé de m'évangéliser au début, mais ont compris que j'avais la tête un peu dure et que ça n'allait pas tout à fait fonctionner, ou en tout cas pas assez vite. Il est évident que quand vous vous laissez filmer, vous espérez toujours que quelqu'un va raconter votre histoire et, dans leur cas, transmettre vos idées. Mais je crois, et c'est le temps long du cinéma direct, quand on passe 6 mois avec les gens, ils finissent d'abord par s'attacher, pour certains, pas tous, et vous oubliez. Et puis voilà, on était là et nous ont fait confiance.
En 8 secondes, Aubrey Adler, pardon. Ils l'ont vu ce film ou pas, déjà ?
Alors, ils le voient samedi. C'est un peu difficile à organiser, puisqu'ils s'entendent si bien qu'on ne peut pas organiser une projection commune. Il faut faire une double projection pour qu'ils ne se croisent pas.
Eh bien, écoutez, ça va être pratique. En tout cas, nous, on le voit, et on le voit avec plaisir. Ça s'appelle Une guerre civile, Elizabeth Town, Pennsylvanie. C'est diffusé demain sur Arte. C'est déjà en ligne, Aubrey Adler. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La suite ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe en Moldavie, où la pression russe est de plus en plus pressante, notamment vers les jeunes. Sous les radars, Kevin Dufraîche pour aller jusqu'à 19h.
Au Pérou, le nez de la présidente fait scandale.
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon. Salut Franck.
Salut Fabienne, bonsoir à tous. Joe Biden est très fier de son action diplomatique. On va tâcher d'apporter un peu de nuance à ce bilan.
Et puis Hélène au pays des 50 États. Salut Hélène.
Bonsoir Fabienne. Cette semaine, on part à la rencontre de Jesus, un employé fédéral très inquiet de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue, il passe par Londres avec Green Tea Peg et la chanson s'appelle One Foot, c'est en playlist sur Inter.
I'm one foot front and back again. Don't tell me to be like this until the end. I'm learning to serve my friend.
these treacherous oceans. I'm fucking exhausted, messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Is it too late for me? Have you deserted me? Is it too late for me? It's too late for me. I'm 1 foot front and back again. That's just the comedy's ends. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a tragedy out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, yeah, original sound. Is it too late for me?
Reportage est en Moldavie ce soir, un pays qui a fort à faire pour résister à la guerre hybride que lui mène la Russie. La Moldavie, vous le savez, partage une longue frontière avec l'Ukraine et puis l'une de ses régions, la Transnistrie, est tenue par des séparatistes pro-russes. En ce mois de janvier, la Russie a mis une pression supplémentaire sur la Moldavie en coupant le robinet du gaz d'abord, qui approvisionnait jusqu'à présent le pays, mais c'est aussi sur le terrain de la désinformation et de la propagande que se joue cette guerre hybride, en particulier en direction des jeunes. Le reste, c'est Fabien Cazot qui raconte.
La nuit est déjà tombée à Chisinau quand Gabriela, 16 ans, sort de son école de danse. Elle rêve d'intégrer une compagnie de ballet et travaille d'arrache-pied pour y arriver. Pas le temps de s'intéresser à l'actualité, à peine reconnaît-elle quelques incursions sur les réseaux sociaux.
Selon moi, l'actualité, c'est pour les gens qui ont le temps de lire, de réfléchir à ce qu'ils lisent. Mais moi, j'ai un emploi du temps tellement chargé que je n'ai pas de temps à y consacrer.
Un peu plus âgé que Gabriela, Giorgio, 21 ans, est quant à lui étudiant en architecture. Selon lui, pas besoin d'aller chercher autre chose que les messageries et les réseaux sociaux pour s'informer.
Je passe beaucoup de temps sur Telegram, j'ai tout ce qu'il me faut. On ne sait jamais tout, mais je pense que pour un citoyen de base comme moi, à mon âge, j'en sais assez. Peut-être qu'un jour je m'intéresserai à la politique, mais plus tard.
Des amis comme Giorgio, Mihail en a plein. Ce jeune homme de 28 ans travaille pour le gouvernement moldave dans le domaine de la cybersécurité, justement. Forcément mieux placé que ses proches pour déjouer les manipulations, il a souvent le sentiment de prêcher dans le désert.
La plupart des gens que je connais passent leur temps sur des chaînes en ligne, en particulier Telegram, qui est très populaire en Europe de l'Est et en Moldavie. Ce sont des contenus inondés de désinformation, de narratifs russes qui encensent la Russie et diabolisent l'Ukraine. Et ce sont des partis politiques d'ici, pro-russes, qui financent ce genre de désinformation.
Des contenus qui reprennent les codes des influenceurs, leur ton, leur humour, leur format, financés en sous-main par des forces pro-russes. La directrice du Centre Moldave de lutte contre la désinformation, Anna Revenko, a bien identifié le problème. Selon elle, l'ombre des Russes plane bel et bien sur les réseaux sociaux moldaves.
Ils exploitent toutes sortes de préoccupations, de problèmes qui se posent ici en Moldavie, qu'ils soient d'ordre économique, sociétaux, culturel, linguistique, etc. C'est leur manière habituelle de procéder, par l'exagération, la manipulation, les demi-vérités, l'altération des faits. L'objectif reste toujours le même, saper la confiance des citoyens.
Un enjeu de démocratie qui devient crucial en année électorale. La présidente pro-européenne Maia Sandu a tout de même été réélue l'an dernier. dernier, malgré la propagande russe et toutes sortes de manipulations repérées par les autorités moldaves. Des appels téléphoniques en provenance de numéros inconnus diffusant aux électeurs des messages vocaux enregistrés. Des appels à photographier son bulletin de vote sur les réseaux sociaux pour toucher une récompense en crypto-monnaie. Tout cela finit par devenir une question de souveraineté nationale prise très au sérieux au sommet de l'État moldave, notamment par la vice-première ministre Kristina Gerasimov.
Nous sommes sous une pression constante depuis de très nombreuses années. Mais ce qui change maintenant, c'est l'ampleur de cette pression. Un des principaux enseignements de tout cela, c'est que nous ne devons jamais sous-estimer l'actualisation et le renouvellement des techniques qui sont utilisées pour manipuler nos citoyens. Beaucoup de ces outils ont vocation à être aussi utilisés dans d'autres pays européens. Certains y ont déjà été testés. Et le message important pour nous, c'est que nous devons travailler ensemble pour lutter contre ce phénomène.
2025 sera à ce titre une année test avant des élections législatives à haut risque qui se tiendront en Moldavie d'ici juillet prochain.
Fabien Cazot pour le reportage. Merci beaucoup Fabien. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et c'est d'abord au Pérou que nous sommes, Kevin, où le nez de la présidente fait la une.
Dina Boluarte a été convoquée et entendue hier par le parquet de Lima pendant plus de 4 heures parce qu'elle a été opérée du nez. C'est très sérieux. Il y a un peu plus d'un mois, son ancien Premier ministre a affirmé que la présidente s'était fait refaire le nez en 2023, mais sans en informer le Parlement, alors que la loi l'exige, puisqu'il s'agit d'une opération qui présente des risques de complications pour la santé. Le parquet a alors ouvert une enquête pour, je cite, « délit d'abandon de poste ». D'après des spécialistes, Dina Boluarte a enfreint la Constitution et une procédure de destitution pourrait donc être lancée. D'après son avocat, c'était une opération mineure, d'ordre médical et pas esthétique, durant laquelle la dirigeante est restée lucide. Elle a même signé près de 100 décrets le jour même de l'opération. C'est en tout cas une affaire de plus pour la présidente péruvienne, déjà poursuivie dans plusieurs dossiers, notamment pour son rôle présumé dans la répression de manifestations qui ont fait 50 morts en 2022.
Nous voici maintenant en Tunisie. Nous sommes sur une plage pas très loin de Bizerte.
Oui, la plage d'El Aouiché, théâtre d'une image peu banale puisqu'une plateforme pétrolière s'est échouée là-bas ce week-end. Les photos sont saisissantes, des images presque dystopiques de cette structure qui semble abandonnée là, posée à quelques mètres du sable. Elle n'a rien à faire là. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'elle était en transit, partie de l'Écosse vers la Turquie et la plateforme s'est décrochée du bateau remorqueur à cause du mauvais temps, selon les premières informations donnée par les médias tunisiens. D'après les autorités, l'accident n'a fait ni dégâts matériels ni pollution. Le remorquage devrait reprendre dans les prochaines heures.
Et puis Kevin, nous sommes en Irlande avec un coup de gueule.
Oui, de la compagnie aérienne à bas coût Ryanair, connue pour créer régulièrement la polémique, notamment sur sa politique tarifaire. Mais cette fois, elle adresse une demande à l'ensemble des aéroports européens pour éviter des problèmes à bord. Ryanair souhaite qu'une limite soit désormais imposée à tous les passagers en attente de prendre leur vol, qu'on ne serve pas plus de 2 boissons alcoolisées par personne pour les empêcher d'être ivres tout simplement et donc de perturber leurs voisins et les équipages. Une demande qui intervient quelques jours après que Ryanair a révélé poursuivre en justice un, je cite, passager perturbateur dont le comportement a forcé un vol Dublin-Lanzarote à être détourné vers Porto. Un contretemps qui a coûté 15 000 euros à la compagnie, notamment parce qu'il a fallu payer l'hôtel aux 160 passagers. Ryanair estime que c'est facile à contrôler, il suffirait de demander les cartes d'embarquement au bar, comme c'est déjà le cas pour limiter les achats en duty free.
Eh ben écoutez, je vous laisse réfléchir là-dessus, mais en portugais, voici Caetano Veloso, Clarisse, c'est le titre, sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Há muita gente apagada pelo tempo, nos papéis desta lembrança que tão pouca me ficou. Igrejas brancas, luas claras nas varandas, jardins de sonho e cirandas, foguetes claros no ar. Que mistério tem Clarice? Que mistério tem Clarice?
pra guardar-se assim tão firme no coração. Clarice era morena, como as manhãs são morenas. Era pequena no jeito de não ser quase ninguém. Andou conosco caminhos de frutas e passarinhos, mas jamais que se despiu entre os meninos e os peixes, entre os meninos e os peixes, entre os meninos e os peixes. Mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice, pra guardar-se assim tão firme no coração. Tinha receio do frio, medo de assombração, corpo que não mostrava, feito de adivinhação.
Caetano Veloso, Clarice sur France Inter. Le Monde à 18h49, c'est Franck Madvon.
How dare you?
World has changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Franck, hier soir, Joe Biden a tiré le bilan de ses 4 années de politique étrangère, un bilan très élogieux, et pourtant, vous nous dites ce soir pourquoi le président démocrate devrait être un peu plus modeste.
Ben, le discours a duré une petite demi-heure au département d'État, et Joe Biden a donc tressé les lauriers de la diplomatie américaine depuis 4 ans. Les États-Unis, dit-il, remportent la compétition internationale, l'Amérique est plus forte, nos alliances sont plus fortes, nos rivaux sont plus faibles, les Chinois ne nous dépasseront jamais, Poutine a échoué à remplir ses objectifs militaires en Ukraine. Depuis le début de la guerre, le seul qui est allé à Kiev, c'est moi, pas lui. N'en jetez plus, Joe Biden enjolive son bilan et ment souvent par omission. Mais il a renoué, c'est vrai, avec les alliés traditionnels des États-Unis après le déroutant mandat de Trump. Un retour au multilatéralisme, aux fondamentaux de la diplomatie US. La puissance économique américaine est par ailleurs indiscutable.
Ce que vous dites, c'est que Joe Biden embellit la manière dont son administration a géré les crises.
Et notamment la première dès l'été qui a suivi son investiture, rappelez-vous la chute de Kaboul et le départ précipité des États-Unis d'Afghanistan. Biden estime que mettre fin à cette guerre, la plus longue de l'histoire de son pays, était la bonne chose à faire. De fait, il est devenu le premier président américain à ne pas léguer à son successeur un conflit auquel les troupes de son pays participent. Mais Joe Biden passe sous silence le retrait hâtif et chaotique de ce mois d'août 2021, quand des milliers d'Afghans se sont entassés à l'aéroport de Kaboul pour fuir et échapper aux joues des talibans. Tout juste regrette-t-il les 13 soldats américains tués dans un attentat islamiste près de cet aéroport.
Alors effectivement, pas de guerre avec implication directe des États-Unis, mais des conflits majeurs encore.
Oui, Donald Trump dit souvent que le monde était en paix à la fin de son premier mandat et que Biden aurait pu éviter les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, accusation difficile à étayer. L'Ukraine d'abord, l'administration sortante n'a jamais lâché Kiev, elle a fourni plus de 100 milliards de dollars d'aide. 2 reproches peuvent être adressés à Joe Biden. Le premier, formulé par beaucoup de républicains, c'est que la somme était excessive. Le second vise les hésitations du président américain qui a souvent été réticent, on le sait, à donner des armes à l'Ukraine par crainte d'une escalade avec une puissance nucléaire comme la Russie. L'avenir dira peut-être qui avait raison. Les Ukrainiens, eux, n'ont pas apprécié en tout cas ces tergiversations. Certains comptent même sur Trump pour bouger les lignes et parvenir peut-être à un accord favorable à Kiev.
Et au Proche-Orient ?
Ben, le bilan ne serait pas tout à fait le même en cas de nouvel accord de libération des otages à Gaza, un accord qui se fait attendre. Mais ce qu'on retiendra surtout des conflits au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023, c'est l'impuissance des États-Unis. Biden est resté spectateur de la tragédie de Gaza, plus de 46 000 morts. Il n'est pas parvenu à retenir le bras d'Israël. Il a continué à lui fournir des armes. Il porte évidemment une responsabilité dans la destruction de l'enclave palestinienne. Joe Biden aurait été en fait président dans un monde de chaos et de crise. Un président dont les acquis diplomatiques seront sans doute vite broyés par son successeur. Pour lui, le plus grand risque est de n'être dans les manuels d'histoire qu'une parenthèse.
Franck Madvon, à demain. Franck, merci beaucoup. Le mardi, retour aux États-Unis avec les portraits d'Hélène Chevalier avant l'investiture. Hélène au pays des 50 États.
France Inter.
We are America.
Et cette semaine, Hélène, nous partons à la rencontre de Jesús, qui est membre d'un des plus grands syndicats d'employés fédéraux.
Oui, il est à la tête du comité local de la Fédération américaine des employés du gouvernement et il enchaîne les interviews en ce moment car les fonctionnaires américains sont dans le collimateur de Donald Trump et du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Dirigé par Elon Musk et son acolyte Vivek Ramaswamy, cette entité au statut encore flou veut faire faire des économies drastiques au gouvernement. 1000 milliards de dollars, un chiffre énorme, ça représente un sixième du budget total. Et pour cela, il prévoit principalement de réduire jusqu'à 75% la masse salariale des employés fédéraux et de supprimer des agences gouvernementales. Ça n'a pas été une mince affaire de trouver un fonctionnaire qui souhaite s'exprimer au micro. Les employés du gouvernement n'ont en effet pas le droit de parler aux médias. Et si j'ai pu interviewer Jesús, c'est parce qu'il est protégé par ses fonctions syndicales. On s'est retrouvé dans une petite salle de réunion d'une bibliothèque municipale. Et notre premier échange a été pour ma part un gloubi-boulga de franglais.
Hi, bonjour. Hi, and you. Vous parlez très bien français.
Mais en Espagne, Jesús a longtemps travaillé à Genève et est marié à une franco-américaine. Il maîtrise donc très bien le français, mais la discussion étant sensible, il préfère s'exprimer en anglais pour ne pas risquer un contresens.
Dans une semaine, Trump sera à la tête du pays.
On commence par parler des nombreuses attaques de la future administration envers les employés fédéraux.
Vous sentez une vraie peur ?
Oui, les employés que l'on représente ont peur. Ils sont également déconcertés et découragés parce qu'on nous accuse d'être paresseux, de prendre des bains moussants tout en travaillant et d'autres choses comme ça. Les gens ne se rendent pas compte qu'en réalité, les fonctionnaires ont choisi de servir leur pays, de prêter serment. Et c'est vraiment une vocation. Si les fonctionnaires fédéraux voulaient gagner de l'argent, ils iraient dans le secteur privé, car vous savez que nous gagnons au moins 25% de moins que les autres.
Et c'est d'ailleurs le choix qu'il a fait, médecin de formation. Il a travaillé pour des start-up, mais s'est tourné vers le secteur public parce que c'est là qu'il pensait être le plus utile.
Et j'ai finalement trouvé ma vocation de service.
Jesús est aujourd'hui directeur de programme pour la Fondation nationale pour la science, une agence fédérale qui soutient la recherche fondamentale.
Mon travail consiste essentiellement à travailler avec des experts pour déterminer quels sont les projets les plus méritants, puis à financer ces projets en exerçant une surveillance étroite et en veillant à ce que l'argent des contribuables soit utilisé efficacement.
Suivez mon regard vers le DOGE, car depuis plusieurs semaines, le département de l'efficacité gouvernementale pointe du doigt sur son compte X les dépenses payées par les contribuables américains qu'il estime inutiles, sont visées par Elon Musk et son équipe, la bureaucratie, les programmes sur la transidentité, mais aussi le télétravail des employés fédéraux.
Si les gens ne reviennent pas au travail, s'ils ne reviennent pas au bureau, ils seront licenciés.
Ça, c'est la menace que Donald Trump souhaite mettre à exécution dès son arrivée, obliger l'ensemble des fonctionnaires à revenir à temps plein au bureau. Il veut aussi délocaliser certaines agences gouvernementales de ce qu'il qualifie de marécage de Washington, un déjà-vu pour notre syndicaliste. Lors de son précédent mandat, le président a déménagé une partie du ministère de l'Agriculture à Kansas City et beaucoup d'employés n'ont pas suivi.
Je peux vous dire que nous avons perdu plus de 60% des salariés. Il s'agit de décennies d'expérience technique. Le service de recherche économique publie des rapports déterminants, scientifiquement prouvés, dont l'industrie alimentaire, les agriculteurs, les décideurs politiques, le Congrès lui-même et le public ont besoin. Donc il est important de toujours rechercher l'efficacité. La question est de savoir quel est l'objectif ultime. Sommes-nous en train de mieux servir nos concitoyens américains ou sommes-nous en train de perturber le gouvernement ?
Jesús n'est pas opposé à faire des économies, mais il estime que les cibles ne sont pas les bonnes.
Les salaires dépensés pour les employés fédéraux ne représentent pas plus de 4,3% du budget fédéral. Ils s'élèvent à environ 293 milliards de dollars. En revanche, si l'on considère les salaires et le coût des contractants, ce qui remplace les employés fédéraux, cela représente environ 790 milliards de dollars, soit 10% du budget. Donc si vous voulez rendre le gouvernement plus efficace, il faut aller à la solution la plus facile.
Ça, c'est un petit tacle en direction d'Elon Musk. L'année dernière, ces entreprises se sont vues promettre 3 milliards de dollars pour une centaine de contrats avec des agences fédérales. On sait aussi que Trump et Musk ne portent pas du tout les syndicats dans leur cœur. Est-ce que vous avez peur aussi pour le syndicalisme américain ?
Je pense que les prochaines années seront difficiles pour les syndicats, mais la Fédération américaine des employés du gouvernement est au service des fonctionnaires depuis près de 100 ans et nous avons traversé de nombreuses
épreuves. Dans une semaine, Jesús entamera donc un double combat, la défense du service public et du syndicalisme.
Hélène Chevalier.